الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالحمد لله عز وجل ما زلنا نقرأ هذا الكتاب التفسير الثمين للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في شرح أو تفسير سورة النازعات سورة النازعات خلنا أول خلاص
أعوذ بالله والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
نعم أحسنت بارك الله فيك. إذن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله عز وجل والنازعات غرقا والنازعات غرقا يعني الملائكة النازعات هم الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار الله جل وعلا سماهم النازعات لأنهم تنزع أرواح الكفار غرقا أي نزعا بشدة غرقا نزعا بشدة بقوة قوله تعالى والناشطات نشطا كذلك ملائكة لكنهم ملائكة موكلة بقبض أرواح المؤمنين أي تنشطها نشطا تنشطها نشطا أي تسلها برفق برفق كالأنشوطة والأنشوطة هي ربط ربط الذي يسمونه عندنا أي عند السعوديين التكة أي عقدة يسيرة أو ما أشبه ذلك من الكلمات نعم جزاك ذلك التكة طيب يعني يكون ربطا بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة يعني بسهولة هذا ينحل بسرعة وهذا ينحل بسهولة. الحمد لله. فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق، وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح إلى الخروج تناديها بأقبح الأوصاف، تقول الملائكة لروح الكافر اخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب الله، فتنفر هذه الروح لا تريد أن تخرج إلى هذا وتتفرق في جسدها حتى يقبضوها بشدة وحتى ينزعوها نزعا يكاد يتمزق الجسد منها، أعوذ بالله، حتى يكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع. أما أرواح المؤمنين نسأل الله يجعلنا منهم، فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها أخرجي يا أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى رضوان الله وما أشبه ذلك من الكلام، فيهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفت فتخرج بسهولة. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنا لنكره الموت، إننا لنكره الموت، فقال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، والعكس بالعكس، لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقها فيفرح، كما يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطين مثلا إلى بيت المسلح القصر المشيد الطيب فيفرح ويحب لقاء الله تبارك وتعالى. أما الكافر والعياذ بالله بالعكس إذا بشر بالغضب والعذاب فإنه يكره أن يموت، لا يريد الموت، فيفرح فيحب، لا فيكره أن يموت، يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه كذلك. نعم. وبيجي للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لا بغض الله والنازعات غرقا. دونك ici الله تبارك وتعالى il fait un qasam. أقسم الله. الله il a juré ici. Comment on sait que Allah il a juré ici les frères? Hein, lorsqu'on lit en arabe والنازعات غرقا. Quel est le dalil, la preuve qu'Allah Jalla wa Ala dans sa parole ici il jure? Un fois. والنازعات غرقا. Ouais. Ici, le premier verset, c'est un qasam. هذا هو قسم من الله عز وجل جل وعلا. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est un qasam? نعم أحسنت بعد الواو نعم الواو في partie des trois lettres de قسم الواو on a quoi ensuite أخي الكريم الباء أحسنت و التاء نعم الواو الباء والتاء طيب donc là on a le واو mais bon c'est pas parce qu'il y a un واو que forcément c'est un قسم non plus d'accord ça peut être autre chose حرف يعني العطف mais là c'est حرف قسم la preuve c'est quoi c'est الجر من أجل الفخر on voit la كسرة sous le تاء والنازعات on comprend automatiquement que c'est un قسم d'accord parce que si ça avait été والنازعات مثلا ça aurait été autre chose voilà والنازعات غرق هذا قسم طيب donc Allah il jure pas premièrement bien sûr Allah il jure sur les créatures d'accord contrairement à nous qui devons jurer que sur le créateur donc Allah il a juré sur النازعات c'est qui النازعات qu'est-ce que c'est النازعات il dit le cheikh c'est les anges d'accord ce sont les anges qui sont chargés d'une tâche particulière c'est quoi cette tâche là particulière eh bien qui est de retirer les âmes des kuffars d'accord les anges qu'Allah tabarak wa ta'ala il a chargé de retirer les âmes des kuffars عند الموت on les appelle النازعات Allah il les a appelés النازعات طيب comment ils ont traduit
par les anges qui arrachent violemment
non par les anges qui arrachent violemment طيب نعم donc غرقا c'est-à-dire نعم c'est ça qui enlève qui retire qui arrache littéralement les âmes de ces kuffars puis Allah il jure par d'autres créatures dans le verset numéro 2 il dit وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَاتِ النَّاشِطَات ce sont d'autres anges encore qui sont aussi chargés de retirer des âmes mais les âmes des croyants d'accord ceux qui retirent les âmes des croyants Allah il les a appelés النَّاشِطَات نعم pourquoi النَّاشِطَات parce que le verbe نَشَطَا يَنْشِطُ signifie enlever quelque chose avec facilité, avec douceur, avec douceur. Hein? Comme il dit ici, el-unshuta. El-unshuta, dans la langue arabe, c'est un nœud qui est très facile de défaire. Un nœud, un petit nœud avec deux petits fils, une boucle, d'accord. Il suffit que tu tires juste un fil comme ça, le nœud il se défait. En arabe, on dit unshuta, d'accord, unshuta. En Arabie Saoudite ou en Algérie aussi, on appelle ce nœud etteka, un nœud qui est très facile à défaire, tekka. Et autre que cela parmi les expressions ou les termes employés. Al-Muhim, c'est ça, c'est un nœud. Il suffit que tu tires un des deux fils hein, pour que la boucle se dénoue. Donc ces anges-là, Nashitat, et donc, ils enlèvent les âmes des croyants. Nashta, c'est-à-dire avec facilité, avec douceur, rapidement. Contrairement aux âmes des croyants. D'accord ? Et pourquoi les anges qui enlèvent les âmes des croyants, pourquoi yani, ils les enlèvent yani, avec dureté ou avec cette intensité et cette violence eh bien parce que lorsqu'ils vont appeler l'âme à sortir parce que les anges vont arriver ils vont appeler l'âme ils vont lui dire Ukhruji, sors de ce corps hein? Mais quand ils vont les appeler ils vont pas les appeler avec des mots des bons mots d'accord non ils vont les appeler avec des mots qui font peur qui vont pas plaire à cette âme là ils vont la décrire avec des adjectifs méprisables. Taïeb, ils vont le dire par exemple, « Ukhruji, sors, oh, toi la mauvaise âme qui était dans ce mauvais corps, sors vers la colère d'Allah. » Enam, subhanallah. Et donc forcément, cette âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne voudra pas sortir. Subhanallah. Elle va essayer de s'échapper, mais s'échapper où? Tu vas aller où? Donc elle ne voudra pas sortir, donc elle va se disperser dans le corps. Elle va se disperser dans le corps de la personne, jusqu'à ce que les anges seront obligés de l'arracher, littéralement de l'arracher avec force, hein? Jusqu'à ce que tellement les anges vont l'arracher avec violence, avec intensité, le corps va se déchirer, va presque se déchirer à cause de ce que les anges y vont faire. Alors que les âmes des croyants, qu'Allah y fasse, qu'on en fasse partie, les anges y vont la retirer. Et quand ils vont la retirer, ils vont lui annoncer la bonne nouvelle. D'accord ? Contrairement aux autres, hein, qui vont entendre les anges leur dire « Oh, toi la mauvaise âme, dans ce mauvais corps, va vers la colère d'Allah. » Là, les anges, au contraire, vont annoncer la bonne nouvelle aux croyants, à l'âme croyante. Et ils vont lui dire, sors, ô toi, la bonne âme, hein, dans ce corps qui est bon, sors vers la satisfaction d'Allah, sors vers l'agrément de ton Seigneur, et autre que cela parmi les bonnes paroles qui vont faire que l'âme sera apaisée. Il lui sera donc facile de quitter ce corps qu'elle avait pourtant l'habitude, hein, d'accompagner durant toute son existence ici-bas. Et bien malgré ça, elle quittera facilement ce corps parce que les anges vont lui annoncer, hein, la bonne nouvelle. Et donc elle sait que ce qui lui attend, alhamdoulilah, n'est que du bonheur et des bonnes choses. C'est pour ça que le prophète, alayhi salat wa salam, lorsqu'il a dit, celui qui aime la rencontre avec Allah, Allah aime sa rencontre. Alors que celui qui déteste la rencontre avec Allah, Allah déteste sa rencontre. Lorsque Aïcha, radiallahu anha, elle a entendu ça, elle a dit, Ya Rasulallah, nous détestons la mort. Non. L'être humain, de façon innée, il n'aime pas la mort. D'accord ? Hatta Sahaba n'aime pas la mort. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas rencontrer Allah ? Non, ça ne veut pas dire ça. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laysa dhalik, c'est pas ça, ya Aïcha. Mais c'est plutôt que le croyant, au moment où la mort arrive à lui, c'est à ce moment-là en fait que ça se passe. Lorsque la mort arrive à lui et qu'il est croyant, les anges vont lui annoncer la bonne nouvelle. Bouchir, la bonne nouvelle. Et on l'a dit, hein, oh toi la bonne âme, etc. Va vers l'agrément d'Allah et sa récompense, son paradis, etc. Donc à ce moment-là, quand il va entendre ces mots, eh bien, la seule chose qu'il désire, eh bien, c'est de se retrouver au paradis, d'être devant Allah tabarak wa ta'ala, de ressentir la satisfaction. C'est la seule chose qu'il voudra à ce moment-là. Il va oublier tout le reste. Il va oublier le dunya, le corps dans lequel il était, etc. Il va oublier tout le reste. Il voudra rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit le prophète, فَأَحَبَّ لِقَ Allah. Donc, en entendant ça, il va aimer rencontrer Allah, tabarak wa ta'ala, et Allah lui aussi, il va aimer le rencontrer. Taïeb ? D'accord, c'est pas parce que chacun d'entre nous, on veut vivre, on veut pas mourir, parce qu'on veut adorer Allah, tabarak wa ta'ala, avec deux liens, le plus longtemps possible, hein, pour rencontrer Allah avec le plus de hasanat. Taïeb ? Mais, c'est au moment de la mort. Au moment de la mort, c'est là que la personne, si elle est croyante, elle va aimer rencontrer Allah, tabarak wa ta'ala. D'accord ? Il n'y aura plus de non, je ne veux pas mourir. Non. Au contraire, alhamdulillah. Tu voudras, l'âme voudra d'elle-même sortir. Alors que le kafir, lui, c'est le contraire. Lui, il va détester mourir à ce moment-là, il va détester sortir de son corps hein, pour rencontrer Allah parce qu'il sait ce qui lui attend. Et donc à ce moment-là, hein, l'âme du croyant, elle sait qu'elle va quitter une demeure, même si la demeure dans laquelle elle était fut dunya, mashallah, elle vivait dans la richesse, la fortune, l'opulence, la bonne santé, etc., etc. Même si elle a vécu dans tout ça, elle voudra quand même quitter toutes ces bonnes choses, tous ces bienfaits, pour aller vers une demeure bien meilleure. Bien meilleure et incomparable avec laquelle ou hein, avec celle où il était. Donc elle va quitter son corps, elle sera au contraire joyeuse. Joyeuse, alhamdoulilah. Comme, par exemple, chacun d'entre nous, hein, l'être humain, lorsqu'il habite, par exemple, dans une maison, dit le cheikh, une maison en terre, une maison en argile, si quelqu'un lui vient et lui dit hein, je t'ai construit un château, un palais, est-ce qu'elle sera contente, forcément. Elle va se réjouir, elle va sortir de chez elle, prendre ses affaires et sa famille, et aller dans son château, dans son nouveau palais, alhamdoulilah. Donc là, c'est pareil. La personne, lorsqu'elle va entendre ce qui lui attend, yawm al-qiyama, elle voudra sortir de son corps, ça y est, khalas, alhamdoulilah, prends-moi, on y va. Et donc, elle aime rencontrer Allah à ce moment-là. Alors que le kafir, c'est tout le contraire. Le kafir, lorsque, il a bouché rabbil ghadab, lorsque les anges vont lui annoncer hein, la colère d'Allah, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'attend. Vous voyez? Donc là, vous remarquerez, on a utilisé le verbe bushira. Bushira bil ghadab. Alors qu'à la base, al-bishara, c'est la bonne nouvelle. Hein, al-bishara, c'est la bonne nouvelle. Mais ici, pourquoi donc du coup, on utilise ce verbe-là, bashara, qui à la base, c'est le fait d'informer d'une bonne nouvelle, alors qu'on annonce ici la colère d'Allah, le châtiment d'Allah, l'imada, Muhammad. Oui.
Parce que la couleur de la peau change.
Non. لأن مثل هذا الخبر يغير لون البشرة. البشرة هي الجلد. البشرة c'est ce qui est apparent de la peau. D'accord. Et quand tu annonces une nouvelle qui te touche, qu'est-ce qu'elle fait la peau? Elle change de couleur. Elle change de couleur. Que ce soit une bonne nouvelle ou une très mauvaise nouvelle, tu vas le voir sur le visage de la personne. Donc là, c'est pareil. Comme on dit les ulama, lorsque on va annoncer la mauvaise nouvelle, hein, eh bien, la peau de la personne va changer de couleur. C'est pour ça que on a utilisé ce verbe ici qui est bashara yubashiru, car elle fait changer la couleur de la peau. En arabe, on dit la peau el bashara. Vous voyez? El basharatu. Non. Et donc, cette âme-là, kafira, elle déteste à ce moment-là mourir et elle détestera à ce moment-là rencontrer Allah tabarak wa ta'ala et Allah aussi. Il n'aimera pas la rencontrer. Et Allah également, il n'aimera pas rencontrer cette âme-là. Et donc, min sifatillah, parmi les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala, l'amour. Et parmi les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala, également, al-karaha. Allah Jalla wa'ala, il déteste comme Allah il aime. D'accord? Ça c'est l'un des textes qui prouve que Allah il aime et Allah il déteste. Wa qawluhu ta'ala wa sabihati sabha. السابحات السبحة كذلك هم الملائكة الملائكة تسبح بأمر الله السابحات ملائكة تسبح طيب بأمر الله أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء كما يسرع السابح في الماء يسبح وكما قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار كل في فلك يسبح سورة ياسين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح فالمعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وهم
أي الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر. الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من بني آدم. انظر إلى قوله تعالى عن سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذا جني بل عفريت. ثم قال: وإني عليه لقوي أمين. فقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن ماذا؟ يرتد إليك طرفك. يعني إذا مددت طرفك ثم رجعته فقبل أن يرجع إليك آتيك به. فمن هو أقوى، الأول أو الثاني؟
الثاني
أقوى أسرع. فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه قال: هذا من فضل الله، أو هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. قال العلماء: إنه حملته الملائكة، حملته هذا العرش الملائكة، حتى جاءت به إلى سليمان من أين؟ اليمن، من اليمن. وسليمان كان في الشام، سليمان كان في الشام، أرض الشام، فلسطين، القدس. فهذه الملائكة قد أتت بالعرش من اليمن، وسليمان بالشام. باللحظة فدل هذا على أن قوة الملائكة أشد بكثير من قوة الجن، وقوة الجن أشد من بني آدم، لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشام قبل مدة طويلة. فالحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله بما يأمرها به. فيجي الله تبارك وتعالى: والسابحات سبحا. سكي فوغ، نو سكي فوغ ان فيتاس، هكذا سكي فوغ ان فيتاس، سكي فوغ او سكي سيلانس à toute vitesse. Donc ceux-là, ce sont les anges qui se déplacent, qui voguent entre guillemets par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils se déplacent à toute vitesse. Comme as-sabih. As-sabih, c'est le nageur, le yasbah, fait le mal dans l'eau. Hein, le nageur, lorsqu'il nage, il nage en vitesse. D'accord ? C'est pour ça qu'Allah les a appelés ici as-sabihat, ceux qui littéralement, ceux qui nagent, ceux qui se déplacent à toute vitesse. Comme Allah tabarak wa ta'ala a utilisé également le même verbe sabaha yasbahu pour le soleil, la lune, la nuit et le jour dans surat Yasin, où il a mentionné le soleil, il a mentionné la lune, et après il a dit كُلُّن فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ، et chacun vogue sur une orbite. يَسْبَحُونَ c'est-à-dire se déplace sur une orbite à toute vitesse. Donc le sens ici, c'est que ces anges se déplacent par ordre d'Allah tabarak wa ta'ala en fonction de ce qu'Allah l'a voulu, en fonction du commandement d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc ces anges qui font partie des piliers de la foi, et en lesquels on doit avoir foi de manière obligatoire. Celui qui ne croit pas aux anges, c'est pas un croyant. Donc ces anges-là, ils sont plus puissants que les djinns. Et les djinns, ils sont plus forts et plus puissants que l'être humain. D'accord ? Là, on a, dans l'ordre de puissance, les trois créatures. On a tout d'abord les anges, puis on a les djinns, puis on a les humains. D'accord ? Regarde la parole d'Allah dans la sourate An-Naml, la fourmi. Dans le sens rapproché, Allah dit, au sujet de la parole de Sulaiman, alayhi salam, qui s'est adressé à son peuple, Ya ayyuhal mala, ô les notables, qui d'entre vous peut m'amener son trône, c'est-à-dire le trône de la reine de Saba, hein, avant qu'ils ne viennent à moi en tant que musulman ou soumis. Un djinn prit la parole, mais pas n'importe quel djinn. Un ifrit. Ifrit. Ifrit, les ulama disent que c'est un djinn mérite, un djinn rebelle. À la base, ifrit, c'est un djinn qui est rebelle, qui s'est rebellé. Mais que ici, Sulaiman, comme vous savez, Allah tabaraka wa ta'ala a mis sous ses ordres les djinns. Et pas n'importe quel djinn. Du coup, ici, on comprend qu'il a même mis des djinns à la base qui sont rebelles, qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas. Vous voyez ? Et en plus, c'est ce ifrit, l'espèce, cette espèce-là de djinn, une espèce qui est très forte, qui est très puissante en plus, par rapport aux autres espèces de djinn. Donc, ce n'est pas n'importe lesquelles. Donc on voit ici, malgré ça, ils étaient au service de Suleyman. Alayhi salam. Allahu Akbar. Donc un de ces djinns, il a pris la parole, il a dit, moi je te l'amène. Je vais te l'amener avant que tu ne te lèves de ton assise. Avant que tu ne te lèves de ton assise. Donc les ulama disent, Suleyman avait l'habitude de faire des assises, notamment pour juger les affaires des gens. D'accord ? Donc cela pouvait prendre plusieurs heures, une matinée ou une après-midi, Allahu a'lam. Al-Muhim, le djinn, il lui a dit, en sachant peut-être que son assise allait durer un certain temps, il lui a dit, avant que tu clôtures ton assise, je vais t'amener dans le trône de la reine de Saba. Vous voyez ? Donc cela pouvait durer quelques heures, ou une demi-journée, voire plus, ou voire moins, Allahu a'lam. Il dit, « Wa inni alayhi laqawiyun amin. » Et pour ça, ne t'inquiète pas, je suis puissant, je suis loyal. D'accord ? Qala alladhi 'inda. Quand tout à coup, une personne qui était proche de lui, proche de Suleyman, et plutôt qui avait la science, afwan, qui avait la science du livre, Al-Kitab, il lui a dit, « Ana atika bihi. » Moi, je vais te l'amener avant que tu n'aies cligné de l'œil. Moi, je te l'amène avant que tu n'aies cligné de l'œil. Donc là, il y a une différence énorme. Une différence énorme. On a dit, l'ifrit, lui, c'était peut-être quelques heures, un laps de temps, qui va lui permettre de ramener ce trône. Alors que lui, il lui a dit un clignement d'œil. Même pas un clignement d'œil. C'est combien un clignement d'œil ? Même pas une seconde. Hein ? Une fraction de seconde. Des fractions de seconde. Non. C'est-à-dire avant même que tu n'aies fermé l'œil et que tu l'aies réouvert. Non. Je vais te l'amener. Et c'est ce qui s'est passé. Il a vu tout à coup le trône installé près de lui. Et là, il a dit, Suleyman, ceci fait partie des grâces ou de la grâce de mon Seigneur, hein, qui m'éprouve. Liyablouani, regardez, subhanallah. Liyablouani, qui m'éprouve afin que je montre si je suis quelqu'un de reconnaissant ou quelqu'un d'ingrat. Allah Akbar. Donc les ulama, ils ont dit, comment le trône est venu jusqu'à lui? Ils disent, ce sont les anges. Ce sont les anges, d'accord? Par rapport à cette personne-là qui a parlé à Suleyman, certains disent que c'était quelqu'un, un homme pieux, mashallah, qui connaissait une science et qui connaissait le nom d'Allah. Le nom d'Allah le plus grand par lequel, lorsque tu fais une invocation, Allah te répond. Donc ils disent qu'il a fait une dua en utilisant ce nom d'Allah tabarak wa ta'ala, et qu'Allah il a envoyé les anges pour que les anges lui ramènent ce trône-là. Subhanallah. Il faut savoir que ce trône-là se trouvait au Yémen. Alors que Suleyman, lui, il était en Palestine. D'accord ? Donc il faut savoir qu'à l'époque, vous voyez, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien. Il mettait 2 heures pour y aller, et 2 heures, pardon. 2 mois pour y aller, et 2 mois pour revenir. Donc ça fait 4 mois en tout. Imaginez-vous, 4 mois de voyage, rien que pour faire ça. Aller-retour. Le trône, lui, les anges, ils ont mis même pas le temps d'un clignement d'œil. Les anges, imaginez-vous les frères, on fait ce déplacement-là, aller-retour, en portant en plus le trône de la reine de Saba, il n'était pas petit et léger, le temps d'un clignement d'œil, ou même pas. En un instant. Donc là, on voit bien la puissance des anges, la puissance de ces créatures, qui est, donc on voit aussi qu'elle est beaucoup plus puissante que celle des djinns. Et le djinn dont on a parlé, un ifrit, c'est pas n'importe quel djinn, on a dit, c'est l'un des plus forts, l'un des plus puissants. Donc on voit la différence énorme entre la puissance des anges et celle des djinns. Taïeb. Et aussi, on voit aussi la différence entre la puissance des djinns et celle des humains. Et aucun être humain n'aurait pu aller chercher le trône de Saba, de la reine de Saba, en une journée ou une demi-journée. On a vu, on a dit, hein, 4 mois en tout, il aurait fallu. 4 mois, sans parler des préparations pour tirer le trône et pour... D'ailleurs, subhanallah. Donc les anges, ils voguent, se déplacent par ordre d'Allah tabarak wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala fas-sabiqati sabaqa. أيضا هي الملائكة التي تسبق إلى أمر الله عز وجل. ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. قال الله تعالى في وصف ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهم سابقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرهم لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله عز وجل. بيد الله تبارك وتعالى فالسابقات أو فالسابقات سبقا. السابقات سبقا. Puis s'élance à toute vitesse. Non. Puis s'élance à toute vitesse. Non. Donc ici, ce sont les anges également qui se précipitent à obéir à Allah tabarak wa ta'ala. Allah il les a appelés as-sabiqat parce que justement, ils se précipitent. Ils s'élancent à toute vitesse. Dès qu'ils reçoivent l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala, ils s'élancent et ils obéissent sans attendre. Pour cela que les anges, ce sont les créatures les plus obéissantes et les plus rapides à obéir, les plus fortes dans l'obéissance, ce sont les malaïkas. Allah Jalla wa Ala, les a décrits, quand il a décrit les anges de l'enfer, mathalin, hein, qui seront chargés de l'enfer, Allah, qu'est-ce qu'il a dit sur eux? Il a dit, en enfer, il y aura des anges, ghilazun, qui sont durs envers les kuffars, rudes, shidad, durs et robustes. Ils ne désobéissent pas à Allah tabarak wa ta'ala en ce qu'il leur a commandé, et ils font tout ce qu'on leur ordonne. Il a dit également à leur sujet, وَمَنْ عِنْدَهُ et ceux qui sont auprès de lui, لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ne s'enflent jamais d'orgueil dans l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ils ne se lassent jamais. Ils ne se lassent jamais de l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Comme l'être humain pourrait se lasser ou se fatiguer là. Ils ne sont jamais fatigués. Jamais hein, fatigués, lassés, ennuyés de l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Alors que yusabbihuna al-layla wa al-nahar, alors que nuit et jour, ils exaltent la puissance, la gloire d'Allah, les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Yusabbihuna la yafturun, ay la yatawaqqafun. La yafturun, la yatawaqqafun. Et ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent jamais. Malgré ça, eh bien, ils ne se lassent jamais, ne sont jamais fatigués, ils sont toujours au contraire les premiers à obéir à Allah tabarak wa ta'ala. Allahu Akbar. Donc ce sont ceux qui précèdent hein, et qui se précipitent vers l'obéissance à Allah tabarak wa ta'ala, qui font tout ce qu'Allah leur ordonne, qui ne désobéissent pas. Et cela yani, nous montre la force de ces anges, la capacité, la puissance hein, de l'obéissance, ou de ces anges-là, dans l'obéissance à Allah tabarak wa ta'ala. وقوله تعالى فالمدبرات أمرا هذا وصف للملائكة تدبر أو تدبر الأمر أو أنهم تدبر الأمر وهم واحد الأمور يعني أمور الله عز وجل لها ملائكة تدبرها فجبرائيل عليه السلام مثلا موكل بالوحي يتلقاه من الله عز وجل ثم ينزل به على الرسل عليهم الصلاة والسلام وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون وميكائيل موكل بالقطر وبالمطر والنبات وملك الموت موكل بالأرواح ومالك موكل بالنار ورضوان موكل بالجنة وكذلك عن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأعمال وملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم فكل يدبر ما أمره الله عز وجل كل موكل ويدبر ما أمره الله به فهذه الأوصاف كلها أوصاف الملائكة على حسب أعمالهم كل هذه الصفات كل هذه الأوصاف على حسب أعمال الملائكة والنازعات الناشطات السابحات والسابقات والمدبرات طيب وأقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة لماذا؟ لأنهم من خير المخلوقات ولا يقسم الله سبحانه بشيء إلا وله شأن عظيم إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل ما شاء الله Puis il dit, Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens rapproché, Fethi,
il règle les affaires.
Il règle les affaires. Donc ceux qui, les mudabbirat, ceux qui se chargent, ceux qui gèrent les ordres d'Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Donc ça, encore une fois, c'est un adjectif venant qualifier les anges ici, ceux qui se chargent de gérer ce qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a demandé de faire, d'organiser, de gérer, d'accord, d'administrer. Non. Par exemple, on a Jibra'il. Hein? Jibra'il alayhi salam, qui lui est chargé de prendre la révélation d'Allah tabarak wa ta'ala et de descendre avec. De descendre avec et de la transmettre à ses messagers, alayhi salatu wa salam. On a aussi Israfil. Israfil, donc tout ça c'est les noms des anges. On a Jibra'il ou Jibril. On a Israfil qui est chargé, lui, de souffler dans As-Sour, dans la trompe. As-Sour. Hein? Donc là c'est avant le jour de la résurrection. Il y aura combien de souffles, les frères?
Deux ou trois.
Certains disent deux, certains disent trois souffles. Wassahihu, trois. Parce que quand tu prends les textes coraniques, on a un verset où Allah dit Yawma yunfakhu fi s-suri fa fazi'a man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha'a Allah. Et on a un autre verset où Allah dit wa nufikha fi s-suri fasa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha qiyam yanthurun. Tayyib. Fa idha hum qiyam yanthurun. Tu viens de l'entendre. Dans un verset, on en a un, et dans le deuxième, on en a deux. Ça fait trois. Le premier, Allah dit, le jour où on soufflera dans la trompe, ça fait zia. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre seront terrifiés. Ça fait zia. Terrifiés. Sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Ça, c'est le premier souffle, nafra. Nafratul fazia. C'est le premier nafratul fazia. Le souffle de la terreur, de la peur, de l'effroi. Non. Dans le deuxième verset, Allah tabarak wa ta'ala dit wa nufikha fis-sur, et on soufflera dans la trompe, fa sa'iqa. Hadi hiya nafatu sa'iq. Le souffle, si vous voulez, de la mort, du foudroiement de la mort. D'accord? Car Allah a dit, et tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre seront foudroyés, seront morts, seront tués à ce moment-là. Sauf ceux qu'Allah voudrait épargner. Donc on comprend qu'il y a des créatures qui ne seront pas morts à ce moment-là également. Illa manchallah. Thumma, ensuite, nous fera fihi ukhra. Et on va souffler une deuxième fois, ou une troisième fois plutôt, dans la trompe. Taïm. Fa'idahum qiyamun yandur. Et les voilà debout, en train de regarder. Taïm. Donc ça c'est nafratu al-ba'th. Le souffle de al-ba'th, dans la résurrection. Al-ba'th. Donc on a trois nafakhat. Nafratu al-faza', nafratu al-sa'q, wa nafratu al-ba'th. C'est bon les frères? Non. Donc celui qui est chargé de souffler dans cette trompe-là, comment il s'appelle, akhi? Israfil. Israfil. Non. Il y en a également Mika'il. Mika'il, qui est un ange qui est chargé de la pluie, des gouttes, des plantes. On a aussi l'ange de la mort, Malak al-Maut, qui lui est chargé, comme on a vu tout à l'heure, des âmes, hein, des âmes, des créatures. On a aussi Malik, Malik, qui est chargé de l'enfer. On a aussi Redouan, qui est chargé du paradis. On a aussi les anges qui sont à droite et à gauche de la personne, qui sont chargés de recueillir, de sauvegarder, entre guillemets, de noter, d'inscrire les actes de la personne. On a aussi tous ces anges-là, donc, qui sont là et qui écrivent tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, etc. Hein? Qui inscrivent là. Hein? Donc on voit que tous ces anges-là ont tous une tâche, une mission de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc là on voit qu'au début de la sourate, Allah jalla wa ala a donné à chaque groupe d'anges hein, un adjectif. Il a juré sur eux. Il a juré sur Nazi'at, ceux qui arrachent les âmes avec force. Il a juré sur Nashitat, ceux qui enlèvent les âmes des croyants avec douceur. Hein. Il a juré sur quoi encore? Sabihat, ceux qui se déplacent. Alors, il a juré sur Sabiqat, ceux qui adorent Allah, ceux qui obéissent à Allah, hein, avec vitesse, avec hâte. Et Al-Mudabbirat. Al-Mudabbirat, ceux qui gèrent les affaires d'Allah, tabarak wa ta'ala. Taïr? Non, فالسابقات سبقا سبع حرف قسم سبع نعم فلا الواو والباء والتاء فقط mais là il a ça rentre dans le sens de القسم la preuve c'est الجر فالسابقات سبقا ايوه الحمد لله معطوف على الواو نعم الفاء non ça c'est الله جل وعلا ici une liste il énumère un à un hein, les créatures sur lesquels il jure. Non. Donc il dit après le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, et Allah tabarak wa ta'ala ici il a juré sur les anges parce que comme vous avez vu ce sont l'une des meilleures créatures qu'Allah il a créées sans aucun doute. Et Allah jalla wa ala ne jure pas sur une créature que si bien sûr elle est d'une importance énorme, que ce soit en elle-même elle a de la valeur, ou que ce soit par rapport au fait que c'est un signe de la puissance ou un des signes de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma qala ta'ala yawma tartufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa. Ma ma'na ar-rajifa? ما معنى الراجفة؟ كم في الحقيقة كم من المسلمين إذا قرأ هذه السورة النازعات السابحات السابقات المدبرات كم منهم يعرف ويفهم هذه الكلمة في الحقيقة؟ والله لا يعلم هذه المعاني إلا من تعلم إلا من تعلم وكذلك يوم ترجف الراجفة ما معنى الراجفة وما معنى الراتفة هذه يوم ترجف متعلقة بمحذوف والتخدير أذكر يا محمد أذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم هذا هو التقدير ذكرهم بهذا اليوم أي يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وهما النفختان في الصور الراجفة نفخة الصعق والرادفة نفخة البعث الآن علمنا ما هي الراجفة والرادفة فالنفخة الأولى ترجف الناس أو ترجف الناس أي تخوفهم تفزعهم فيفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم فيقوم الناس من قبورهم مرة واحدة قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة إن شاء الله سنرى ما معنى الساهرة ما هي الساهرة سبحان الله donc il dit par la suite Allah tabarak wa ta'ala فتحي
le jour où la terre tremblera au premier son du clairon suivi immédiatement suivi du deuxième
Non. Au son du clairon. Yom at-tarjuf. Donc ici, ces deux versets-là, il dit le shaykh, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un sous-entendu, une chose qui n'est pas dite par Allah tabarak wa ta'ala, mais qui est comprise et qui est sous-entendue dans le contexte de ces versets-là. Et ce qui est sous-entendu par Allah et qui n'est pas dit, eh bien c'est rappelle-leur, ya Muhammad. Rappelle-leur. Mentionne aux gens ce jour-là. Ce jour-là qui est terrible et qui est énorme. Et quel est ce jour? C'est le jour où justement il y aura ces deux souffles. D'accord? Donc ici, Allah Jalla wa'ala n'a pas mentionné le premier, qui est le souffle de la frayeur, de l'effroi. Mais il a mentionné les deux derniers qui sont le souffle de Sark, du foudroiement, et le souffle de la résurrection. Donc le premier c'est Ar-Rajifah, et le deuxième c'est Ar-Rajifah.
Le clairon, je ne sais pas comment, c'est la trompe.
Sour, la trompe, oui. La trompe, oui. Sour. Donc on a les deux ici, les deux souffles. Le premier souffle, lui qui va, donc, il dit les chers, effrayer les gens, les terrifier, puis ils vont mourir. Donc on comprend peut-être là que le Cheikh Al-Uthaymeen, lui, il voit qu'il n'y a que deux souffles. Il voit que le premier, il va les effrayer, il va les tuer en même temps. Allahu a'lam. D'ailleurs, Allahu a'lam.
Asar,
c'est là-bas, c'est le... Asar. Là. Non, Asar, avec un sod. Asar, quoi. Non, c'est le foudroiement, là-bas. Foudroiement. Quelqu'un qui est foudroyé. Hein, on dit qu'il est Mas'ur. C'est ça, Asar. Donc c'est Nafra. Nafra tout ça. Hein?
Saïqa.
Saïqa.
Le roi du français est tombé.
Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé à Moussa
Al-Islam? Quelqu'un qui tombe, qui perd connaissance, qui. Saïqa. Saïqa. Al-Muhim. Le premier souffle, donc, il va enlever les âmes, qui va tuer les créatures jusqu'au dernier. Illa minshallah. D'accord? Donc on comprend par là qu'il y a des créatures, car là il va épargner. Et le deuxième souffle, ou le troisième selon l'avis que tu as pris, c'est le souffle qui va faire que les gens vont être ressuscités, et qui vont sortir de leur tombe. Et quand on dit leur tombe, bien sûr, c'est de manière générale, mais même ceux qui n'ont pas été enterrés, ils seront ressuscités aussi. Ceux qui se sont noyés dans la mer, ou qui ont été mangés par un lion, et aussi ils seront ressuscités. Voyez? Donc les gens, tous les êtres humains, ainsi que les djinns, ils vont se relever ce jour-là en un instant. Maratan wahida. En un instant. Et Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans la même sourate, et on va expliquer inshallah ta'ala la semaine prochaine, فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَ. Et ce n'est qu'un seul, le verset 13, Fethi, verset 13.
Il n'y aura aucune zajara, sommation, cri.
Non, qu'une seule sommation, qu'un seul cri. Donc, non, zajara. Mais ici, c'est ce qui est visé ici, c'est le nafra. Nafratu al-ba'th, le souffle de la résurrection, d'accord. Qu'un seul souffle, il n'y aura qu'un seul souffle. Fa'idahum, et ils seront tous bisahira, sur as-sahira. Qu'est-ce que ça veut dire la sahira? Hein? On verra inshallah mardi prochain. Le mardi.
Je suis fatigué.
Que journée?
Samedi.
Samedi. On verra samedi prochain ce que ça veut dire la sahira. Donc, comme je disais tout à l'heure en arabe, vous voyez ici que tous ces termes-là, combien parmi ceux qui lisent le Coran, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. Sabihat, sabiqat, mudabbirat. Combien sont ceux qui comprennent vraiment qu'Allah et qui savent vraiment ce dont Allah parle? Allah parle de qui, de quoi? C'est qui le nazi'at? C'est qui? Ça, tu ne peux pas le deviner sans que tu aies appris, sans que tu n'aies écouté les paroles des exégètes, mufassiroun, hein, qui eux, bien sûr, reviennent aux paroles des sahaba, des salafs, avant tout, qui eux ont pris ce tafsir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas il. Donc combien d'entre les musulmans, quand ils lisent, ils savent tout ça? C'est quoi rajifa? C'est quoi radifa? C'est quoi sahira? C'est pas des mots qu'on utilise tous les jours, ça. D'accord? Donc tu peux pas savoir, Yanni, si tu n'as pas appris, si tu n'es pas assis. C'est la parole d'Allah. Comment on peut lire le Coran sans même comprendre, hein, ces mots-là, ces vocabulaires? Tu vas réciter un verset en prière et tout, mais tu ne comprends même pas. Adala
Yambari. Mais les Arabes avant, ils captaient tout du Coran quand ils entendaient.
C'est-à-dire, sans revenir au prophète?
Non, je veux dire les Quraysh et tout.
Certes, ils avaient un vocabulaire, hein, qui n'est pas le nôtre, il n'y a pas de doute. Mais ils revenaient quand même. Ils revenaient aux prophètes, ils revenaient aux sahaba, ils revenaient aux salafs. Ça veut rien. Taïeb, ils arrêtaient le prophète à chaque verset. Khanallah. Taïeb, wa'akada. Et en plus, ils mémorisaient le Coran en faisant cette méthode-là, qui est qu'ils apprenaient, certains ils apprenaient par exemple 10 versets et ils ne passaient pas à d'autres versets tant qu'ils n'ont pas appris le tafsir. Tant qu'ils n'ont pas appris le tafsir, ils ne passaient pas à d'autres versets. D'accord? Donc on comprend que le tafsir, il s'apprend aussi. Tu n'apprends pas que le hifz. Tu dois apprendre aussi le tafsir pour le mettre en pratique. Parce que le hifz, c'est pour mettre en pratique ce que tu as mémorisé. Mais comment tu peux mettre en pratique une chose que tu n'as pas apprise? D'accord? Le but, l'objectif, ce n'est pas le hifz. Ce n'est pas une fin en soi, la mémorisation. La fin en soi, c'est l'application. C'est ça la finalité de la chose. D'accord? Combien sont hafiz le Coran? Mais comme il a dit Cheikh Al-Fawzan, sont pires que les animaux. Hein? Nasallahu salamat al-afiyah. Naktafi bihadha al-qadr inshallah wa al-ilmu inda Allah wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.